Bonjour et bienvenue à bord de ma mobylette cosmique sur les routes de la musique. Cette semaine, nous continuons notre voyage à la recherche de l'énergie féminine dans la composition musicale. Et puisqu'on dit énergie, on dit polarité. Et puisqu'on dit polarité, eh bien on dit couple. Nous allons examiner les duos mythiques et inspirants filles-garçons. Et au passage, poser une question. Pourquoi les femmes ne s'autorisent pas à exprimer leur désir des hommes et par là même à en faire des objets sexuels? Ça aussi, c'est une injustice. Quoi? Nos poils n'inspirent pas des chansons? Il est temps de renverser la vapeur, d'abattre ces vieilles valeurs machistes et que les hommes revendiquent aussi leur statut de muse.
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
Al-Sarah and the New Buttons qui nous chantait Al-Forag. Continuons notre route avec les femmes et la musique. En musique, il y a les couples d'amour. La femme qui inspire l'homme, la muse qui fait jaillir des mélodies et le tout qui sort par de bouche. Nous pensons à Jane et Serge, Amadou et Mariam, Véronique et Michel, Sonny and Cher, Justin Bieber et Selena Gomez. Remontons plus loin jusqu'au couple mythique Orphée et Eurydice, le poète et la nymphe. Orphée était poète et musicien. Il est à la cool avec Apollon qui lui offre une belle lyre et des cours particuliers avec les muses qui lui apprennent à en jouer. Orphée, doué, apprend vite et quand il joue, il charme tout le monde. Les bêtes féroces, les arbres, les chiens, les pierres. Et quand il joue, tout le monde le suit, emporté par sa musique. Même les rochers quittent leur statue immobile et se ramollissent, hypnotisés par la mélodie d'Orphée. Orphée, lors d'une de ses promenades, croise une nymphe aussi belle que ses chansons. Elle s'appelle Eurydice. Il l'épouse, ils vivent heureux, enfin, jusqu'à ce qu'elle meure. À la mort d'Eurydice, Orphée part la chercher au fin fond des enfers. C'est une métaphore, bien sûr. Moi, André Manoukian, psychologue du samedi soir, je vous explique. Orphée, le compositeur, en fait, doit aller chercher en son fort intérieur. Il doit aller chercher au plus profond de lui-même. Là est le bonheur et la malédiction de la musique, parce que le fort intérieur, ça peut brûler les fesses.
André, vous cherchez à nous dire que vous êtes obligé d'aller dans votre enfer personnel pour composer ?
Oui, Elsa, mais c'est trop personnel. Je ne peux pas vous parler directement de moi. Revenons plutôt à Orphée et Eurydice. Avant la mort d'Eurydice, on raconte qu'ils vécurent d'amour, de musique et d'eau fraîche. On raconte aussi qu'Orphée adapta sa lyre en hommage aux neuf muses, protectrices des arts et des lettres. Pour elles, il rajouta donc deux cordes à la traditionnelle lyre qui n'en possédait que sept. Il obtient ainsi une lyre à neuf cordes, et ben une cithare quoi. Orphée serait donc l'inventeur de la cithare.
Born in
le groupe Orphic Arcade Fire qui nous chantait Oh Eurydice.
France Inter. Les routes de la musique. André Manoukian.
Des couples d'amour charnel, passons aux couples familiaux. Avec le sitar de Ravi Shankar et ses filles, Anushka Shankar et Nora Jones. Un père, deux filles. Pour les filles, des parcours bien différents. Ravi Shankar est l'un des plus grands compositeurs indiens. Il a joué, entre autres, avec les Beatles dans les années 60. C'est lui qui les a initiés à la musique indienne. Mais il souhaite partager son savoir avec sa descendance, que la musique indienne continue de vivre selon la tradition. Pour les 5 ans de sa fille Nora, Ravi Shankar fait construire un petit sitar. Il est prêt à lui apprendre tout ce qu'il sait. Mais il se sépare de sa mère et Nora Jones part vivre avec elle aux États-Unis sans plus aucun contact avec son père. Elle ne le retrouvera qu'à ses 18 ans. Et donc c'est Anushka, la plus jeune, issue d'une autre union, qui hérite du petit sitar. Le parcours des deux sœurs prend dès lors des chemins différents. Pendant que Nora Jones se construit avec le jazz et les influences de la musique nord-américaine, Anushka, elle, suit son père. Tous les deux, un sitar entre les mains. Et elle apprend la rigueur des ragas indiens. Un raga, c'est un agencement de notes. C'est une manière, c'est comme une phrase musicale et il faut en apprendre 1000 pour posséder son instrument. Oui, il y a plus de 1000 ragas et ils sont classés selon les systèmes en modes principaux, en modes dérivés, avec des échelles de base qui s'appellent les grammas, dans lesquelles les permutations de la tonique dans une gamme de 7 notes permettent
de former... Stop, là, André, moi je vous coupe, on ne comprend pas tout. Alors on va écouter les explications des joueurs de raga, ça sera peut-être plus simple.
C'est un développement sur certains règlements des notes.
Il y a une échelle qui est fixée.
Une échelle qui est fixée.
Et qui peut différer quand on monte et quand on descend.
Voilà, c'est ça.
Ravi Shankar complète cette définition.
Ce ne sont pas que des notes qui montent ou descendent et se succèdent. Pour rendre vivant un raga, il faut des années de travail avec son gourou.
Anushka Shankar, dont le gourou est son père, confirme.
C'est vrai que c'est une musique qui est très sérieuse et importante.
Le père et la fille, Anushka et Ravi, parlent ensemble du raga pour le partager avec nous.
Tu dois connaître la vie du raga, la vie en Inde, sa tradition, sa religion. Tout ça est nécessaire pour le rendre vrai. Sinon, c'est un simulacre.
Je le vois comme un genre musical, probablement un des plus anciens. Et c'est aussi un des rares styles musicaux qui a une vraie dimension spirituelle. Et pour ces raisons, je trouve que c'est une tradition très unique, très importante. Quelque chose de très important à protéger.
Ravi apprend tout cela à Anushka. Et pendant ce temps-là, Nora Jones prend des leçons de piano et de chant et affûte sa voix dans les chorales des églises au Texas.
Les deux filles voguent donc sur deux routes complètement différentes. La tradition d'un côté, l'émancipation de l'autre. Cette différence est bien soulignée par le père Ravi Shankar. Il dit au sujet de Nora Jones « Nora ne partage pas mon héritage de la musique classique indienne. La musique qui l'a rendue célèbre, avec laquelle elle a grandi aux États-Unis avec sa mère, c'est purement et simplement du jazz et de la country. Elle m'a entendu jouer, c'est tout. Il se peut qu'elle ait la musique indienne dans ses gènes, mais vraiment, elle en ignore tout. Alors il n'est pas question de tenter de faire quelque chose ensemble. » Waouh. Anushka, quant à elle, grandit dans les valeurs de la culture indienne classique. Son père est Ravi. Oui, bon, ça va, j'arrête mes blagues idiotes. Anushka suit son père dans ses tournées dès ses 13 ans. Il joue en symbiose par-delà le monde, la musique traditionnelle indienne. Un père et sa fille, un maître et son élève, le gourou, le roi. Ravi transmet le flambeau à Anushka, qui aura le devoir de faire perdurer la flamme de la musique indienne. Il lui interdit de jouer une autre musique que ça. Forcément, ça pèse sur ses épaules. Alors qu'elle, sur ses épaules, elle préférerait avoir des ailes et partir à la découverte d'horizons plus vastes, de mélanger les cultures, de créer. Elle a envie d'insuffler ce qu'elle est dans sa musique en s'éloignant de la tradition. Mais l'ombre de son père est derrière elle. Sa musique, son sitar, elle est son disciple, il lui a tout légué. Comme n'importe quel roi, Ravi Shankar désirait fonder une dynastie musicale. Le paradoxe, c'est qu'il faudra attendre sa mort pour que ses deux filles se réunissent et jouent enfin ensemble, justement, un hommage à leur père. On écoute Norah Jones et Anushka Shankar dans Traces of You.
Traces of you linger like a teardrop. Fresh upon my heart sings for you. Play me like a rain cloud. Sounds upon the traces of you linger like a teardrop. Fresh upon my heart sings for you.
André, c'est quoi la différence entre la tradition et la création ?
On va dire que le travail du musicien, c'est de se placer entre la tradition et la création. La tradition, c'est quoi ? C'est un enseignement qui nous vient de nos ancêtres. Ce sont des règles qu'il ne faut, par essence, pas du tout transgresser, puisque sinon, on s'écarte du chemin. Par exemple, dans la musique d'Extrême-Orient, on est sur la gamme pentatonique. Dans la musique qu'on pratique en Indonésie, qu'on pratique en Chine, on est sur ce fameux mode, cette gamme à 5 notes. Donc voilà, ce sont les 5 notes avec lesquelles on a le droit de jouer, puisque les instruments sont construits comme ceci, les instruments à percussion du type balafon ne permettent pas de jouer d'autres notes. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, la tradition nous enseigne à jouer ça d'une certaine manière, et ce qui finalement, elle va carrément limiter le rôle du compositeur, puisqu'il s'agit de reproduire le geste qu'on nous a appris, et depuis des temps immémoriaux. Donc tout d'un coup, si on réfléchit un petit peu, sortir de la tradition, c'est faire preuve d'un ego démesuré, et c'est se dire, moi je vais casser les règles, des règles qui existent depuis des milliers d'années. C'est impossible, ça n'est pas dans le caractère extrême-oriental. Alors on continue toujours à faire... Quand vous allez en Indonésie, vous avez des orchestres traditionnels qui non seulement répète le même geste depuis des centaines d'années, mais dont même les danses sont extrêmement codées avec des gestes extrêmement précis. Et finalement, en répétant... La musique de ses ancêtres, sans arrêt, on trouve une forme de sérénité. On n'existe plus en tant qu'individu avec les questions qu'on pourrait se poser sur c'est quoi la création, c'est quoi ma place de la société. Non, on reprend simplement le geste des anciens. C'est un geste qui a été éprouvé, c'est un geste qui signifie plein de choses. Et finalement, on trouve la paix puisqu'il n'y a plus aucune question. Il s'agit simplement d'apprendre ce qu'ils nous ont appris et on va le transmettre à notre tour, à nos enfants. Et ainsi, on ne peut pas se poser de questions, on ne peut pas être angoissé. On se sent bien dans la communauté puisqu'on reproduit un geste qui nous réunit tous depuis tellement longtemps. Alors, le geste du créateur, il est en rupture. Tout d'un coup... J'ai un ego, j'existe. Ok, on m'a appris un truc. Ok, on m'a appris. C'est la même chose dans l'harmonie occidentale. Si on pense qu'au Moyen-Âge, par exemple, on n'a pas le droit de faire des tierces parce que c'est trop sensuel et que c'est interdit par l'Église et qu'on est juste avec des quintes. Le premier qui a mis la tierce, il risquait d'aller en enfer. Et alors, celui qui met la septième... Et alors, celui qui commence à jouer le premier blues, je vous explique pas. C'est quoi, finalement? Être un créateur, c'est utiliser les règles, puisqu'on en a besoin pour l'apprentissage de l'instrument, et à un moment donné, c'est transgresser. Sauf que pour transgresser ou pour amener sa patte personnelle, le paradoxe en musique, c'est qu'il faut connaître les règles des anciens. Donc, il y a un moment où il faut les apprendre, les règles. Et nos règles, ce sont les règles de l'harmonie. Encore une fois, tout tourne chez nous en Occident. Et puisqu'on a des instruments occidentaux qui sont divisés en 12 demi-tons autour de cette fameuse gamme qu'on va apprendre à monter en accord. Et puis ensuite, trouver la liberté. Ça va être s'inscrire, nous, dans ces accords-là, et puis jouer les notes qu'on a envie de jouer au hasard. On va prendre même carrément une cadence très classique, fa, sol, et puis do, et puis on va essayer de laisser libre cours à son imagination. C'est-à-dire, avec les règles, je joue sur la gamme de do, avec les accords très classiques d'une cadence, c'est-à-dire accord de fa, accord de sol, accord de do. Si je joue sur la gamme de Do, je suis sûr de ne pas faire de fausses notes. Donc, c'est un des premiers chemins de liberté que je peux prendre où je sais que je ne vais pas me faire mal, où je ne vais pas faire en tout cas mal aux oreilles de mes auditeurs. Et puis, je m'amuse à répéter les trois notes que j'ai faites au hasard et à les transposer. Est-ce que pour autant je crée quelque chose de très original? Peut-être pas. Il ne faut pas chercher l'originalité à tout prix au début. Et ensuite, c'est en prenant ses défauts à soi, c'est-à-dire se trouver un maître et puis ne jamais réussir vraiment à imiter son maître, qu'on va se construire au fond sa personnalité. Qu'est-ce que c'est que transgresser quand je suis, encore une fois, en Do majeur? C'est utiliser d'autres notes que la gamme de Do. Et alors, ça risque de faire un petit peu mal aux oreilles. Aïe, 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 ça fait mal aux oreilles, hein. Sauf si je m'y prends bien. Là, j'ai joué quoi? Une gamme de fa dièse sur un accord de fa. Un demi-ton, c'est le pire des écarts qui puisse exister, puisque, comme c'est tout près, ça fait cette disharmonie terrible. Je peux jouer en fa dièse sur un accord de fa si je le prépare, c'est-à-dire je commence à jouer ma gamme de fa. Et puis tout d'un coup, je passe en fa dièse. Mais je retombe tout de suite en fa. Et là, du coup, il se passe quelque chose comme un vertige et ça devient délicieux. Waouh ! Et là, je suis en fa dièse. Là, je suis... Donc, la liberté, finalement, elle commence à s'acquérir quand on a beaucoup de techniques. Et c'est ça le paradoxe. C'est que pour être libre, il faut avoir appris les règles. C'est la grande leçon de la musique.
Mother's home. You will show me I had something some people call a soul. And you drive top the sky. Oh, you when I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. Couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close.
Les routes de la musique.
Sans fa. No one knows me like the piano.
André Manoukian sur France Inter.
Le père castre la fille, même si elle n'a pas de phallus. Et le couple mère-fille en musique, qu'est-ce que ça donne? Prenons le cas de Nina Simone et de sa fille Liza. Liza a eu un début de vie particulier. Dès que ses parents se séparent, sa vie devient instable. Elle est ballottée d'un continent à l'autre, elle suit sa mère dans ses péripéties et ses folies. Puis à 14 ans, épuisée par une enfance brinque-ballante entre New York, la Barbade, le Libéria, le Sénégal, elle abandonne sa mère pour vivre à Genève. Sans doute pour trouver un cadre et se stabiliser, à 18 ans, elle prend son indépendance et s'engage dans les forces armées. Oui, elle intègre l'US Air Force. Elle ne tue pas le père, mais c'est du pareil au même dans l'idée.
Quoi, la fille Nina Simone s'engage dans l'armée? Et pendant ce temps-là, sa mère Nina chante, elle se bat avec des mots, elle utilise une autre sorte d'arme, c'est une arme musicale. Nina, dites-nous avec quoi et pour qui vous battez-vous?
This is Nina Simone, my friend. I'm honored that they've asked me to drop by and talk about mine.
De son vrai nom, Eunice Kathleen Wyman. Pas vraiment jolie, plutôt maladroite, pauvre et noire de peau. À part ses talents naturels, elle n'a pas grand-chose pour plaire, pour se plaire. De surcroît, elle ne fait rien pour plaire, elle ne peut pas. Cependant, il lui importe terriblement de pouvoir se respecter, de donner un sens à son existence et de se faire entendre.
Nina se libère de toutes ses contraintes et tente en même temps de libérer son peuple.
Elle se libère, oublie les conventions et s'invente ses propres règles, sa propre mesure, qui est démesure, qui souvent est excès. Entière, entièrement différente, elle cherche à tout dire. Crachin, crachat, silence explosif, hurlement en murmure. Pas d'enjolivure, juste le feu et la discipline.
Sa parole est en feu, sa musique est un cri, ses chants sont une arme.
The real problem with violence is that we have never been violent. We have been too non-violent.
If I had my way, I'd have been a killer.
Si je m'étais laissé guider par mes propres sentiments, je serais devenu un tueur. Je me serais procuré des fusils et j'aurais été violente et j'aurais tiré si cela n'avait dépendu que de moi. Mais mon mari m'a dit que je ne connaissais rien aux armes et que la seule chose que je pouvais faire, c'était de la musique. Alors je lui ai obéi.
Et ses armes musicales cognent, frappent et ne laissent pas indemnes les Blancs et leur suprématie.
Je pouvais chanter pour aider mon peuple. C'est devenu le centre de ma vie. La chose la plus importante pour moi, ce n'était ni le piano, ni la musique classique, ni même la musique populaire, mais la musique des droits civiques.
Nina Simone, femme puissante au cœur de Soul, croyait en son peuple et croyait qu'un jour, nous serions tous libres.
We're on the move now.
Yes, sir.
We're moving to the land of freedom.
Nina a choisi la musique comme arme. Sa fille, elle apprend à manier le fusil d'assaut. Mais...
Pendant son temps libre, elle commence à chanter en public dans les clubs de Francfort, là où elle est basée. Mais la guerre du Golfe éclate et l'US Air Force la mobilise. Elle chasse ses rêves de chanteuse le temps d'une guerre. Et quand la guerre est terminée, Liza reste en tant que personnel civil dans l'armée, toujours à Francfort. Là, elle dirige le club de musculation, tout en continuant à chanter les week-ends dans les clubs.
Et c'est à 52 ans que Liza Simone sort son premier album. Écoutons donc.
Prayer is a powerful thing. And when you pray, you gotta have faith. And be mindful of what you want. Cause once it's before him, consider it done. And it won't be undone if you stick to your guns in the long run.
C'était Finally Free, le titre prémonitoire de son premier album personnel qui s'appelle All Is Well. Ça y est, Liza se lance, elle écrit des ballades, elle ose enfin être elle-même. Elle se réconcilie post-mortem avec sa mère Nina. Et même si elle s'est construite en opposition avec elle, elle fait la paix. Elle accepte d'être la fille d'une icône, une icône qui se nomme Nina Simone, une grande tragédienne.
I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. Like a bird in the sky.
Grande Nina Simone qui nous chantait « I wish I knew how it would feel to be free ».
Les routes de la musique. André Manoukian sur France Inter.
Pourquoi les destins des compositrices sont-ils si compliqués? Et pourquoi les femmes trouvent-elles si difficilement leur place dans le monde de la musique? De manière générale, il y a autant d'instrumentistes femmes que d'instrumentistes hommes. À une certaine époque, les filles de bonne famille se devaient d'apprendre un instrument comme elles devaient apprendre la couture. Mais composer, c'est une autre affaire.
Faisons un résumé des différentes explications dans l'histoire qui expliquent pourquoi il y a peu de compositrices.
Au Moyen-Âge, la femme doit se taire à l'église. Saint Augustin conseille aux femmes cloîtrées de ne chanter que ce qui est prescrit, c'est-à-dire certainement pas leur propre composition de toute façon.
L'histoire et les hommes se sont acharnés pour que la femme reste à sa place, à côté du landau, à prier ou à materner.
Un psychanalyste aurait tendance à penser que les hommes ont tendance davantage que les femmes à créer pour compenser le fait qu'ils n'ont pas biologiquement la possibilité de mettre au monde un enfant.
Les hommes veulent mettre au monde sans avoir leurs règles chaque mois et ne pouvant pas accoucher, ils deviennent créateurs. Mais la petite fille, elle aussi, elle a son lot de frustration, non?
Elle n'a pas de pénis. Et je crois que c'est à ce moment-là que naissent les besoins d'une création qui prend une signification phallique.
La femme n'a pas de pénis, soit, et l'homme ne peut pas être enceint. Alors on devrait être à égalité. Et pourtant, il y a moins de compositrices.
La fille a en quelque sorte un conflit sur deux fronts. Elle doit, d'une part, affronter sa mère, se dégager de sa mère, et d'autre part, oser faire ce qu'elle vit comme étant une prérogative paternelle, comme un équivalent de la possession d'un pénis, et ce double conflit est un inhibiteur devant la création.
Vous, André, c'est pour avoir un vagin que vous êtes compositeur? Ou c'est pour enfanter que vous composez?
Certains disent qu'il manque un phallus aux femmes et que donc les compositrices se sont fait un phallus en composant. Mais alors les compositeurs masculins en composant, ils auraient deux phallus et là, on le renjoue, le deuxième phallus. Et qu'est-ce que ça veut dire de se faire un phallus en composant? Ça veut dire, dans nos sociétés patriarcales, prendre le pouvoir. Car composer, c'est prendre le pouvoir sur les autres musiciens. Comme l'évoque Pascal Quignard à travers le scénario du film « Tous les matins du monde ».
Reprenez en marquant les premiers temps. Vous reprenez au début. Arrêtez, arrêtez-vous! Le maître a fait un signe.
Toute note doit finir en mourant.
Vous avez entendu? Laissez mourir. Allez-vous-en, partez tous.
Partez. Partez.
Qu'il reste. Marin Marais fait sa leçon. Qu'il s'assoie.
Un compositeur dicte au musicien ce qu'il doit faire. Il a le pouvoir absolu. Il est chef de projet. Il est roi. Il est le créateur. Il est plus même, il est Dieu.
André, là, il va falloir se calmer parce que vous cherchez à nous dire quelque chose.
Bah oui, évidemment, les musiciens hommes ont beaucoup plus de mal à accepter de se mettre au service d'une femme qu'au service d'un garçon. Et c'est pour ça qu'il y a plus de mecs compositeurs. C'est notre société qui veut ça, cette société qui doit se battre pour obtenir la parité en politique, cette société où il y a peu de femmes chefs d'entreprise. Les femmes n'ont pas fini de prendre le pouvoir.
I'm tired as fuck, oh, I'm tired as fuck. Dry my eyes on the back of my sleeve and do my coat up. I'm tired and stuck. Oh, I'm tired as fuck. Put down the phone, put on my gloves and wish me luck. Wish me luck. I'm tired as hell. Oh, I'm tired as hell.
The Staves qui nous chantait « Tired as fuck ». Quand on est femme, il faut se battre et prendre le pouvoir. C'est ce qu'a fait Zit Kalasa. Zit Kalasa est une écrivaine et militante amérindienne, musicienne et activiste Sioux, née au 19e siècle, en 1876, dans une réserve du Dakota du Sud. Elle est aussi connue sous le nom que lui ont donné les missionnaires, Gertrude Simmons Bonner.
Et Gertrude, c'est quand même pas terrible comme prénom. Surtout quand on s'appelle Zit Kalasa et que Zit Kalasa en amérindien, ça veut dire oiseau rouge. Gertrude, ça vient du germain Gary et Trude et ça veut dire lance et fidèle.
Oui, nous, Elsa, on va l'appeler Zit Kalasa. Lorsqu'elle a 8 ans, elle est envoyée par des missionnaires dans une école de blancs gérée par des Quakers. Elle y reste 3 ans et vit comme une douleur profonde cette rupture brutale avec sa culture, ses racines, notamment lorsqu'on l'oblige à adopter la religion Quaker ou lorsqu'on lui coupe ses longs cheveux. Elle en profite tout de même pour apprendre à lire, écrire et jouer du piano et du violon. Avec toujours en elle la rage contre l'assimilation culturelle, elle entre en lutte et elle va le clamer dans ses écrits.
Je préfère à leurs dogmes mes excursions dans les jardins naturels où l'on entend la voix du grand esprit. Dans le gazouillement des oiseaux, l'ondulation des eaux puissantes et la douce senteur des fleurs. Si ceci est le paganisme, alors à présent, au moins, je suis païenne.
Zit Kalasa a la rage. Elle est la femme Sioux qui part défendre son peuple. Elle organise des débats sur le traitement des Amérindiens aux États-Unis tout en continuant à faire du violon. Elle traduit les légendes amérindiennes pour que leur histoire ne soit pas effacée. Et en parallèle, elle écrit de la musique. Et quoi donc ? Un opéra. Oui, un opéra, le gros truc avec tout le tintouin. Et c'est le premier opéra écrit par une Amérindienne. Composer un opéra, c'est diriger un orchestre, des chanteurs, une troupe. Et avec ça, elle prend grave le pouvoir, l'oiseau rouge. Son opéra s'appelle The Sun Dance. Elle l'écrit avec le compositeur William F. Hanson. L'opéra sera présenté une première fois en 1913, interprété par les Indiens Utes dans la réserve. Et une Amérindienne, le cul entre deux cultures, devient compositrice. Elle compose avec sa lutte et elle prend le pouvoir. Elle parle de sa culture en utilisant les codes des Blancs.
Et de cette histoire extraordinaire, qu'en reste-t-il ? Pas grand-chose, des bribes. Zitkalasa a bien une page Wikipédia, mais si vous voulez écouter son opéra en entier, bah, c'est pas possible.
Oui, comme d'habitude dans l'histoire de la composition, chez les femmes, les traces sont détruites. Et la fin de l'histoire est triste. Zitkalasa se meurt le 26 janvier 1938 à Washington à l'âge de 61 ans. Elle est enterrée sous le nom de Gertrude Simmons Bonin. Son nom d'indienne, Zitkalasa,
l'oiseau rouge,
est gommé. Zitkalasa avait toutes les tares, femme, compositrice, indienne. À elle seule, elle symbolise la place de la femme dans l'histoire et dans la musique. Sa parole est effacée par le mâle dominant. Et alors, on peut imaginer qu'il y a plein de femmes compositrices perdues dans l'histoire. Et Zitkalasa, en plus de symboliser la femme compositrice, symbolise tous les compositeurs, quel que soit leur sexe. Elle n'appartient ni aux Indiens, ni aux Blancs. Comme le musicien, elle est en exil perpétuel. C'est là la vraie fonction du musicien. Le musicien est un gitan permanent. Il n'a pas de terre, pas de territoire. Et c'est en composant qu'il part à la conquête de son territoire personnel. Tel Orphée descendant dans son enfer personnel, la devise du musicien serait celle qu'écrivait Camus : l'exil est mon royaume.
Flèche en opale dans mon ovale, doux métal au visage pâle, drôle de fleur, un indien dans mon cœur. Flèche en platine dans ma poitrine, pointe sanguine, épaule féline, drôle de fleur, un indien dans mon corps. C'est lui. Thank you.
pour la fin, une femme compositrice.
Je suis à lui.
Juliette Armanet, qui nous chantait l'Indien. Quant à moi, sur les routes de la musique, j'ai beaucoup de chance puisque je ne suis entouré que de femmes. Et oui, Christine Kern qui s'occupe de notre page internet sur laquelle vous pouvez trouver la belle programmation musicale de Muriel Pérez. Émission qui est produite par Fanny Bouillon, enregistrée par Élise Christophe avec la voix angélique ou diabolique, c'est selon le tempérament de Elsa Denac. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.